Livre 6e. Chapitre 1. La tour de Kilit Ungol. Sam se releva péniblement du sol. Pendant un instant, il se demanda où il était, puis il se rappela toute sa détresse et son désespoir. Il se trouvait dans la plus totale obscurité, devant l'entrée souterraine de la forteresse des orques. Ses portes de bronze étaient fermées. Il avait dû tomber assommé en se jetant contre elles. Mais combien de temps il était resté étendu là, il n'en avait aucune idée. Autant il avait été bouillant tout à l'heure, désespéré et furieux, autant il frissonnait à présent, glacé jusqu'aux os. Il s'approcha furtivement des portes et pressa son oreille contre celle-ci. Il put tout juste entendre des voix d'orques qui clabaudaient, loin à l'intérieur. Mais bientôt, elles se turent ou échappèrent à son ouïe et le silence retomba. Sa tête le lancinait et ses yeux percevaient des lumières fantômes dans les ténèbres, mais il prit sur lui de se remettre d'aplomb et de réfléchir. Une chose était claire en tout cas, il n'y avait aucun espoir de s'introduire dans la forteresse orque par cette porte. Il attendrait peut-être des jours avant qu'elle s'ouvre et il ne pouvait attendre. Les heures étaient terriblement précieuses. Il ne doutait plus du devoir qui lui incombait, il lui fallait secourir son maître ou périr dans l'entreprise.
« Pour ce qui est de périr, j'ai de bonnes chances, et ce sera bien plus facile de toute façon »,
se dit-il sombrement, tandis qu'il remettait Dar au fourreau et se détournait des portes de bronze. Lentement, il remonta le tunnel à tâtons dans l'obscurité, n'osant se servir de la lampe elfique. Et comme il cheminait, il tenta de se représenter le cours des événements depuis que Frodo et lui avaient passé la croisée des routes. Il se demanda quelle heure il était. Quelque part entre une journée et une autre, sans doute. À vrai dire, il avait tout à fait perdu le compte des jours. Il se trouvait dans un pays de ténèbres où les jours du monde semblaient oubliés, et tous ceux qui y entraient l'étaient eux aussi.
« Je me demande s'ils pensent jamais à nous, » se dit-il, « et ce qui leur arrive tout là-bas. »
Il agita vaguement la main devant lui, mais en vérité, comme il regagnait le tunnel d'Arraigne, il se trouvait à présent face au sud et non à l'ouest. Au dehors dans le monde, sur les marches de l'ouest, midi approchait au 14e jour de mars, compute du comté. Aragorn venait alors de quitter Pelargir à la tête de la flotte noire et Merry chevauchait avec les Rohirrim dans la vallée des Fardiers, pendant qu'à Minas Tirith, les flammes montaient, Pipin voyant grandir la folie dans le regard de Denethor. Pourtant, malgré le souci et la peur, leurs pensées se tournaient constamment vers Frodo et Sam. Ils n'étaient pas oubliés, mais ils étaient au-delà de toute assistance, et pour lors, aucune pensée ne pouvait venir en aide à Sam Saget, fils de Hamfast. Il se trouvait entièrement seul. Il finit par regagner la porte de pierre à l'entrée du passage des orques, et, toujours incapable de découvrir le moindre loquet ou verrou, il se hissa par-dessus comme auparavant et se laissa tomber doucement de l'autre côté. Puis, il se coula jusqu'à la sortie du tunnel d'Arraigne où les lambeaux de sa grande toile continuaient de flotter et de s'agiter dans le courant d'air froid. Sam le trouva glacial après les ténèbres malsaines où il était resté, mais ce souffle le ranima. Il sortit à pas de loup. Au dehors, il régnait un calme inquiétant. La lumière n'était guère plus nette que le crépuscule d'un jour sombre. L'immense flot de vapeur qui s'élevait du Mordor se répandait vers l'ouest en un bas plafond, maelstrom de nuages et de fumée que la sinistre lueur rouge éclairait encore par en dessous. Sam leva les yeux vers la tour orque, quand tout à coup apparurent à ses étroites fenêtres des lumières semblables à de petits yeux rouges. Il se demanda s'il s'agissait d'un signal. Sa crainte des orques, momentanément oubliée dans sa colère et son désespoir, le saisit de plus belle. Il ne voyait pas d'autre voie. Il lui fallait poursuivre sa route et tenter de découvrir l'entrée principale de cette terrible tour. Mais il sentait ses genoux ployer et il s'aperçut qu'il tremblait. Détournant son regard de la tour et des cornes de la fente devant lui, il força ses jambes récalcitrantes à lui obéir. Et tout yeux, toute oreille, scrutant l'ombre dense des rochers de part et d'autre du sentier, il revint lentement sur ses pas retrouvant l'endroit où Frodo était tombé et où planait encore la puanteur d'araigne. Puis, il poursuivit son ascension jusqu'à ce qu'il fût de nouveau dans cette même fente où il avait mis l'anneau et vu passer la compagnie de Shagrat. Il s'arrêta alors et s'assit. Pour le moment, il ne pouvait s'astreindre à continuer. Il sentait que, s'il dépassait le sommet du col et faisait un véritable premier pas dans la descente sur la terre du Mordor, ce premier pas serait irrévocable. Il ne pourrait plus jamais revenir. Sans intention précise, il sortit l'anneau et le repassa à son doigt. Il en sentit aussitôt l'énorme poids. Et il sentit à nouveau, mais plus forte et plus pressante que jamais, la malveillance de l'œil du Mordor, fouillant, tentant de percer les ombres ourdies pour sa propre protection, mais qui à présent lui nuisait, confortant son inquiétude et son doute. Comme auparavant, Sam constata que son ouïe était plus fine, mais qu'à sa vue, les choses de ce monde paraissaient vagues et dissipées. Les parois rocheuses du sentier étaient pâles, comme vues à travers un brouillard, mais il entendait encore le lointain gargouillement d'araigne dans son malheur, et, dur et clair, tout proche, pensa-t-il, il entendit des cris et des chocs métalliques. Il sauta sur pied et se pressa vivement contre la paroi en bordure de la route. Il se félicita d'avoir l'anneau, car voici qu'une nouvelle compagnie d'orques venait encore par là. Il le crut du moins, au début. Puis soudain, il comprit qu'il n'en était rien, que son ouïe l'avait abusé. Les cris d'orques venaient de la tour, dont la plus haute corne se trouvait juste au-dessus de lui à présent, sur le côté gauche de la fente. Secoué d'un frisson, il s'efforça d'avancer. Visiblement, il se tramait quelque diablerie. Peut-être la cruauté des orques les avait-elle dominés au mépris des ordres. Peut-être était-il en train de tourmenter Frodo, ou même de le tailler sauvagement en pièces. Il tendit l'oreille, et tandis qu'il écoutait, une lueur d'espoir vint à lui. Impossible de s'y tromper. On se battait dans la tour, les orques devaient se quereller entre eux. Shagrat et Gorobag en étaient venus au coup. L'espoir que lui inspira cette idée, si mince qu'il fût, le fouetta néanmoins. Il avait peut-être une chance. Son amour pour Frodo l'emporta sur toute autre pensée. Alors, oublieux du danger, il s'écria « J'arrive, monsieur Frodo !» Il s'élança vers le sentier et gravit la pente en courant. Au-delà, la route tournait à gauche et plongeait abruptement. Sam venait d'entrer au Mordor. Il retira l'anneau, mû peut-être par quelques vagues prémonitions de danger, encore qu'il se dit simplement qu'il souhaitait y voir plus clair. « Vaut mieux faire face au pire, » murmura-t-il. « C'est mieux qu'avancer à tâtons dans le brouillard. » Un pays hostile, dur et cruel, se révéla à son regard. À ses pieds, la plus haute crête de l'Eiffel Douath s'abîmait en de hauts précipices dans une sombre gorge, derrière laquelle s'élevait une autre chaîne, beaucoup plus basse, dont l'arête découpée présentait des entailles et des aiguilles de roche, tels des crocs dessinés en noir devant la lueur rouge de l'arrière-fond. C'était la sinistre Morgaï, l'anneau intérieur des défenses du pays. Loin au-delà, mais presque en droite ligne, par-delà une grande mer de ténèbres piquetées de feux minuscules, se voyait un intense rougeoiement, d'où s'élevaient d'immenses volutes de fumée tourbillonnante, rouge cendre à la base, noire au-dessus, là où elle rejoignait l'enflure du plafond de nuages qui recouvrait toute la terre maudite. Sam contemplait l'Orodruine, la montagne du feu. De temps à autre, les fourneaux s'échauffaient loin au-dessous de son cône de cendre et des torrents de roches en fusion se déversaient par jets convulsifs sortant des crevasses qui déchiraient ses flancs. Des coulées incandescentes se dirigeaient vers Barad-dûr, dévalant par de profondes rigoles. D'autres se faufilaient dans la plaine rocailleuse où elle finissait par se refroidir et restait comme des formes de dragons tordus, vomis par la terre tourmentée. Ce fut en cette heure d'épreuve que Sam contempla le mont Destin, et sa lumière, cachée par le haut écran de l'Eiffel Douath à la vue de ceux qui venaient de l'ouest, enflammait à présent la face sinistre des rochers, de sorte qu'il paraissait baigné de sang. Dans cette lueur infâme, Sam resta frappé d'horreur, car il vit à présent, regardant à sa gauche, la tour de Kirith Ungol dans toute sa puissance. La corne qu'il avait aperçue de l'autre côté n'était que la plus haute tourelle. À l'est, sa face, en trois grands niveaux, était assise sur un replat de la muraille montagneuse, loin en contrebas. L'édifice était adossé à un haut escarpement d'où saillaient ses bastions pointus, l'un au-dessus de l'autre, en dimensions toujours réduites, avec des côtés abrupts d'une ingénieuse maçonnerie qui regardait au nord-est et au sud-est. Autour de l'assise inférieure, à 200 pieds sous la corniche où se tenait Sam, se dressait un mur crénelé enfermant une cour étroite. Sa porte s'ouvrait au sud-est, du côté rapproché, et donnait sur une large voie dont le parapet extérieur longeait le bord d'un précipice. Puis, ce chemin tournant vers le sud descendait en zigzag dans les ténèbres pour aller rejoindre la route venant du col de Morgul. Celle-ci passait alors une découpure irrégulière dans la face de la Morgaï, débouchant dans la vallée du Gorgoroth et poursuivant sa course vers Barad-dûr. Les trois chemins de montagne sur lesquels se trouvait Sam plongeaient quant à lui par une série d'escaliers et de raidillons jusqu'à la grande route qui passait sous les murs renfrognés près de la porte de la tour. Tandis qu'il regardait, Sam comprit soudain, presque sous le choc, que la forteresse n'avait pas été bâtie pour empêcher que l'ennemi n'entre au Mordor, mais pour éviter qu'il n'en sorte. C'était, en fait, l'un des ouvrages du Gondor de jadis, un avant-poste de défense à l'est de l'Ithilienne, construit dans le sillage de la dernière alliance, alors que les hommes de l'Occidental surveillaient le pays maléfique de Sauron où rôdaient encore ses créatures. Mais comme à Narrost et Carrost, les tours des dents, leur vigilance s'était endormie, et la traîtrise avait livré la tour au seigneur des spectres de l'anneau. Et il y avait de longues années désormais qu'elle était aux mains de choses mauvaises. Depuis son retour au Mordor, Sauron en avait tiré le meilleur parti, car il avait peu de serviteurs, mais beaucoup d'esclaves sous le joug de la peur. Aussi, cette place forte remplissait-elle la même fonction qu'autrefois, empêcher toute évasion du Mordor. Mais quiconque eût poussé l'audace jusqu'à vouloir s'insinuer dans ce pays, la trouverait également sur son chemin. Ultime sentinelle qui ne dort jamais, pour qui aurait échappé à la vigilance de Morgul et d'Arrenne. Sam ne voyait que trop clairement combien il serait difficile de se faufiler sous ses remparts aux multiples yeux et de passer la porte attentive. Et même s'il y réussissait, il n'irait sans doute pas bien loin sur la route surveillée qui courait au-delà. Même les ombres noires, tapies dans les creux que la lueur rouge ne pouvait atteindre, ne l'abriteraient pas longtemps de la vision nocturne des orques. Mais si désespérée que lui parut cette route, la tâche qui l'attendait était encore bien pire. Non pas d'éviter la porte dans sa fuite, mais de la franchir seule. Sa pensée se tourna vers l'anneau, mais n'y trouva aucun réconfort, que du danger et de la peur. À peine arrivé en vue du mont Destin rougeoyant au lointain, il avait constaté que son fardeau avait changé. À mesure qu'il approchait des grands fourneaux où celui-ci avait, dans les profondeurs du temps, été façonné et forgé, le pouvoir de l'anneau grandissait. Il devenait plus âpre, indomptable, sinon par une volonté extrêmement puissante. Et Sam, tandis qu'il se tenait là, bien que l'anneau ne fût pas à son doigt, mais suspendu à la chaîne qu'il avait au cou, se sentait plus grand que nature, comme revêtu d'une ombre de lui-même, démesurément haute, sinistre menace dressée sur les remparts du Mordor. Il sentait que dorénavant, il n'avait plus que deux choix, refuser l'anneau et s'exposer à son tourment, ou le revendiquer et défier la puissance assise dans son repère noir au-delà de la vallée des ombres. Déjà, l'anneau le tentait, entamant sa raison et sa volonté. Les rêves les plus fous se présentaient à lui, et il se voyait Sam Sagel le Fort, héros de notre âge, arpentant les terres assombries avec une épée flamboyante, rassemblant les armées sous son drapeau, tandis qu'il volait à la conquête de Barad-dûr. Alors, tous les nuages se retiraient, le soleil dardait ses rayons blancs, et à son commandement, la vallée du Gorgoroth devenait un jardin de fleurs et d'arbres plantureux. Il n'avait qu'à mettre l'anneau et à le revendiquer pour lui-même. Alors toutes ces choses seraient à sa portée. Ce fut d'abord l'amour de son maître qui, à travers cette épreuve, lui permit de rester ferme. Mais aussi ce simple bon sens de Hobbit qui, au fond de lui-même, demeurait invaincu. Il savait, en son fort intérieur, qu'il n'était pas de taille à supporter un tel fardeau, en supposant que ses visions ne fussent pas un simple leurre. Un tout petit jardin, celui d'un jardinier libre, tel était son unique besoin et son seul dû, non un jardin érigé en royaume. Travailler de ses propres mains et non commander celles des autres.
« Et puis, toutes ces lubies sont qu'un piège !» se dit-il. « Il m'aurait cerné et soumis avant que j'aie eu même crié. Il aurait vite fait de me cerner si je mettais l'anneau ici, au Mordor. Eh bien, tout ce que je puis dire, c'est que ça s'annonce aussi mal qu'un gel au printemps. Juste au moment où être invisible serait vraiment utile, je ne peux pas me servir de l'anneau. Et si jamais j'arrive à me sortir d'ici, ce sera qu'un fardeau et un boulet à traîner à chaque pas. Que faire alors ?»
Il ne doutait pas réellement. Il savait qu'il lui fallait descendre à la porte sans s'attarder plus longtemps. Avec un haussement d'épaules, comme pour secouer l'ombre et chasser les fantasmes, il se mit à descendre lentement. Chaque pas semblait l'amoindrir. Bientôt, il était redevenu un tout petit hobbit effrayé. Il se faufila sous les murs même de la tour, d'où il put entendre, sans aide extérieure, les cris et le tumulte de la bagarre. À présent, le brouhaha semblait venir de la cour située derrière la muraille. Sam avait parcouru environ la moitié du chemin quand deux orques sortirent en courant de la porte sombre dans la lueur rouge. Ils ne se dirigeaient pas vers lui. Ils tentaient de rejoindre la grand-route, mais trébuchant dans leur course, ils s'affalèrent sur le sol et y restèrent étendus, immobiles. Sam n'avait vu aucune flèche, mais il devinait que les fuyards avaient été abattus par d'autres orques postés au créneau ou cachés dans les ombres de la porte. Il se remit en marche, serrant le mur à sa gauche. Un regard vers le haut lui avait confirmé qu'il n'y avait aucun espoir d'escalade. La maçonnerie s'élevait à 30 pieds, sans la moindre fente ou saillie, vers des assises en surplomb formant un escalier inversé. La porte était le seul moyen. Il continua d'approcher. Ce faisant, il se demanda combien d'orques vivaient dans la tour avec Shagrat, combien étaient avec Gorbag, et quel était le motif de leur dispute, si dispute il y avait. La compagnie de Shagrat lui avait paru totaliser une 40aine, celle de Gorbag, plus du double. Mais évidemment, la patrouille de Shagrat n'était qu'une partie de la garnison. Frodo était presque assurément l'objet de leur querelle. Frodo et le butin. Sam s'arrêta une seconde, car soudain tout lui semblait clair, comme s'il le voyait de ses yeux. La cotte de maille de Mithril. Frodo la portait, naturellement, et il ne manquerait pas de la trouver. Et d'après ce que Sam avait entendu, Gorbag la convoiterait. Mais les ordres de la tour sombre étaient désormais la seule protection de Frodo, et si l'on décidait de passer outre, Frodo pouvait être tué à tout moment, sans cérémonie.
« Allons, pauvre fainéant !» s'écria Sam pour lui-même. « Il est temps d'agir !»
Il tira d'art et courut vers la porte béante. Mais juste au moment de passer sous sa grande arche, il ressentit un choc, comme s'il s'était heurté à une toile semblable à celle d'araigne, mais invisible. Il ne voyait aucun obstacle, mais quelque chose lui barrait le chemin, trop fort pour être surmonté par sa volonté. Il regarda autour de lui, et alors dans l'ombre du portail, il vit les deux guetteurs. On eût dit de grandes formes assises sur des trônes. Chacune avait 3 corps joints et 3 têtes tournées vers l'extérieur, l'intérieur et le travers du portail. Leur face était celle de vautours, et sur leurs épais genoux reposaient des mains pareilles à des serres. Ils semblaient taillés dans d'immenses blocs de pierre immuables. Et pourtant, ils étaient conscients, pétris de malveillance, habités d'un terrible esprit de vigilance. Ils savaient reconnaître un ennemi. Visible ou invisible, nul ne pouvait passer sans être découvert. Ils lui interdiraient l'entrée comme ils empêcheraient son évasion. Durcissant sa volonté, Sam s'élança une nouvelle fois, mais il s'arrêta d'un coup sec, chancelant, comme frappé à la poitrine et à la tête. Puis, redoublant d'audace, car il ne trouvait rien d'autre à faire, répondant à une idée soudaine qui lui était venue en tête, il sortit lentement la fiole de Galadriel et la brandit. Sa lumière blanche fusa rapidement et les ombres s'enfuirent du portail. Les monstrueux guetteurs furent révélés froids et immobiles dans toute leur ignominie. Pendant un instant, Sam vit une lueur étinceler dans les pierres noires des yeux et leur malveillance le fit trembler. Mais peu à peu, il sentit leur volonté s'effriter et succomber finalement à la peur. Il les passa en coup de vent, mais comme il le faisait, remettant la fiole sous sa chemise, il sut aussi sûrement que si une barre d'acier avait claqué que leur vigilance était revenue. Et de ses hideuses têtes monta un cri aigu et strident qui résonna entre les hauts murs devant lui. Loin au-dessus, tel un signal de réponse, une cloche discordante retentit une fois.